De la courbe U de D, on peut obtenir la courbe donnant la variation de la force F s'exerçant entre les deux ions en fonction de la distance D entre ces ions. Par définition, cette force F est la dérivée première de la courbe d'énergie potentielle U de D. On constate que cette force F est nulle pour la valeur U0, correspondant à la distance d'équilibre A0 entre les ions, ce qui est logique puisqu'à l'équilibre, les forces de répulsion et d'attraction entre les ions s'annulent. Cette force est négative si la distance D est inférieure à A0, ce qui correspond à une compression imposée au matériau. Pour D supérieur à A0, la force est positive et correspond à la force de traction qu'il faut imposer au matériau si l'on tente de séparer ces ions constitutifs. La force F passe par une valeur maximale correspondant au point d'inflexion de la courbe U de D. Cette force maximale FTH correspond à la rupture de la liaison entre les ions, c'est-à-dire à la rupture du matériau. On remarquera aussi que la tangente en A0 à la courbe F de D est la dérivée seconde de U de D. Or, cette dérivée seconde est inversement proportionnelle au rayon de courbure ρ de la courbe U de D à son minimum. La pente bêta prime de cette tangente sera d'autant plus élevée que le rayon de courbure U de D sera faible, c'est-à-dire que le puits de potentiel U0 sera pointu. Si l'on divise la force F de D par la surface du matériau sur lequel elle s'applique, on obtient ainsi la contrainte sigma sur l'axe vertical. On peut aussi corriger l'axe horizontal en déplaçant l'origine en A0 et en divisant la variation delta D par A0 pour obtenir la déformation epsilon sur l'axe horizontal. La courbe relative ainsi obtenue est la courbe théorique de traction sigma epsilon du matériau. Sa valeur maximale représente la résistance théorique à la traction RTH du matériau et la pente de sa tangente à l'origine est égale au module d'Young E du matériau.